Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. En ce mois d'avril, nous sommes en pleine période d'orientation pour la jeune génération. Les élèves de terminale viennent de valider leurs vœux sur Parcoursup. Ils attendent leurs résultats avec impatience et peut-être que certains hésitent encore à se lancer dans des études de géographie. Cette discipline n'est sans doute pas la plus plébiscitée. Elle offre cependant des débouchés intéressants et pas seulement dans l'enseignement. Journalisme, urbanisme, paysagisme, cartographie, géostratégie, tourisme et écologie, voilà autant de domaines dans lesquels il est possible de travailler avec cette formation dans son bagage. C'est ce que va nous expliquer Jean-Robert Pitt, président de la Société de géographie et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez enseigné la géographie pendant des années à la Sorbonne. Tous vos étudiants ne sont pas devenus des professeurs ou des universitaires. Vous saviez qu'il y aurait différents parcours professionnels. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez leur transmettre à ces jeunes ?
Alors d'abord, je pense que la géographie est une discipline passionnante et qui ouvre l'esprit. Et que quand on a fait des études de géographie, ce qui devrait être le cas de toutes les études, d'ailleurs, on peut faire n'importe quel métier, en tout cas qui touche au domaine intellectuel. Quand on sort de Cambridge ou d'Oxford avec un doctorat en latin ou en grec, on se retrouve dans un cabinet d'avocat, dans une banque, dans une entreprise, à des postes de responsabilité. Donc ce qui compte, c'est que la discipline ouvre à la culture générale. Et la géographie, pour moi, est évidemment une de ces disciplines importantes. Cela dit, comme vous venez très justement de le rappeler, la géographie ouvre à des métiers très particuliers, en dehors, si je puis dire, de la reproduction du modèle, c'est-à-dire la création du savoir, la recherche, l'enseignement, le professorat, ce qui est un métier indispensable et tout à fait noble. Il y a plein d'autres métiers qui correspondent à ce que j'appellerais la géographie appliquée. Donc gestion de l'environnement, vous l'avez dit, tourisme, vous l'avez dit, urbanisme, aménagement du territoire, mais beaucoup d'autres domaines, géopolitique. Mais pour ça, il faut fabriquer un peu son propre métier, son propre profil en fonction de la demande de la société. Et jusqu'à maintenant, peut-être que les géographes ne l'ont pas fait assez, mais j'ai un certain nombre d'anciens étudiants qui sont dans les assurances, dans la banque, et qui ont réussi très 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 bien. Et quand je leur demande, mais alors en quoi la géographie vous sert-elle? Il dit, vous n'imaginez pas combien ça m'est utile dans ce métier qui, a priori, n'a rien à voir avec la géographie, d'avoir fait de la géographie quand j'étais jeune.
Qu'est-ce que c'est avoir l'esprit géographe, frotter à cette discipline ? Qu'est-ce qui va en rester ?
Vaste question, vous me laissez 2 heures pour y répondre. Non, être géographe, c'est avoir le sens des lieux, le sens de la différenciation spatiale, le fait que les réalités terrestres, qu'elles soient environnementales ou humaines, politiques, culturelles, changent d'un lieu à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, qu'il y a des frontières partout à la surface de la Terre, et comprendre ce monde de la diversité, c'est ça l'objet de la géographie. Et à partir du moment où on a compris la diversité, on se comporte mieux. Je vais vous donner un exemple, si vous me permettez, qui correspond justement à l'actualité. Il se trouve que mon homologue, président de la Société de géographie de Russie, président du conseil d'administration, est Vladimir Poutine, et que le président exécutif est Sergueï Shoigu, qui est le ministre de la Défense. Donc je leur ai écrit la semaine dernière une lettre ouverte que vous trouverez sur le site de la Société de géographie, dans laquelle j'explique que quand on est géographe, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on accepte la réalité. Si les Ukrainiens étaient réellement des Russes, ben ils le diraient. Or, le fait même qu'ils ne se sentent pas Russes, c'est de la géographie. Pourquoi ils ne se sentent pas russes ? Parce que leurs histoires ont évolué, surtout depuis 30 ans, depuis la chute des murs, depuis la perestroïka. Et aujourd'hui, on doit reconnaître que les Ukrainiens, même les russophones, qui parlent mal l'ukrainien, que les russophones ne se sentent pas russes. Eh bien ça, et on peut l'expliquer. Et ce constat, qui relève de la géographie, aurait dû empêcher Vladimir Poutine et son gouvernement d'envahir l'Ukraine de façon aussi brutale. Parce que lui est dans une vision qui est une vision idéologique fondée sur une histoire ancienne qui est l'histoire de l'URSS, mais qui n'a aucun sens aujourd'hui pour les Ukrainiens. Et donc, être géographe, c'est aussi accepter la diversité du monde, les identités de chaque territoire et de chaque peuple et de chaque société dans ces lieux. Et ça, c'est, pour moi, c'est essentiel.
C'est chercher à comprendre un monde mouvant et non pas figé.
Alors c'est un monde mouvant parce qu'effectivement ça peut changer, les frontières ont toujours bougé dans l'histoire de l'humanité, mais les comprendre, ces frontières, c'est déjà d'une certaine manière les accepter. Enfin, il y en a qui sont totalement inacceptables quand elles sont fondées sur la tyrannie, quand elles sont fondées sur la force militaire, mais une frontière qui s'établit, j'allais dire, par la force des choses, par la réalité humaine et environnementale, pourquoi elle est contre ? Mais déjà, essayer de la comprendre. Pourquoi elle s'est établie comme ça ? Pourquoi, je sais pas, la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est le Rhin, mais c'est une frontière qui a beaucoup bougé et qui a donné lieu à beaucoup de guerres. Mais à partir du moment où on l'a comprise et où on l'accepte, eh bien, on va vers la paix. C'est on va vers l'acceptation de l'ailleurs et de l'autre. Et pour moi, la géographie, c'est ça. Ça sert à ça. Ça sert à accepter que nous ne sommes pas tous pareils à la surface de la Terre, qu'on peut, mais qu'on doit vivre ensemble. Mais à partir du moment où on comprend mieux celui qui est de l'autre côté de la frontière et qu'on a envie de faire des choses avec lui, eh bien, on va vers la paix. Et donc, la géographie a une utilité fondamentale. Il y a eu un de mes collègues bien connu, Yves Lacoste, en 1976, a écrit un petit essai qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Alors, il voulait dire simplement que, historiquement, c'est vrai qu'on a développé la science géographique à l'usage des militaires. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand on est géographe, on doit faire la guerre. Au contraire, pour moi, la géographie sert à pacifier l'humanité.
Alors, la géographie, à quoi ça sert ? C'est l'intitulé d'une grande rencontre que la Société de géographie organise dans quelques jours, du 7 au 9 avril. Cette rencontre est vraiment ouverte à tous. Il y a de nombreux intervenants. Et une demi-journée est consacrée au champ professionnel de la géographie.
Oui.
Et vous avez invité des personnalités assez différentes, par exemple un paysagiste, une agence de conseil en stratégie spatiale, et puis la responsable du service infographie et cartographie du Monde. Pourquoi leur donner la parole ?
Parce que nous espérons avoir un certain nombre d'étudiants et de futurs étudiants qui assisteront à ce colloque ou qui le suivront sur leur ordinateur, puisqu'on pourra pendant les 3 jours, 7, 8 et 9 avril, suivre ce colloque qui a lieu à l'Institut et à la Société de géographie sur son ordinateur, essayer de montrer que c'est une discipline qui offre des débouchés. Par exemple, la Delphine Papin, qui est la responsable du service cartographique du Monde, est une ancienne étudiante que j'ai eue un moment au début de son cursus. Après, elle s'est spécialisée en cartographie. Puis elle est entrée au Monde, qui a toujours un grand quotidien, a toujours besoin de cartes. Et aujourd'hui, elle a une équipe qui travaille sous ses ordres et elle n'a pas assez de monde parce que tous les journalistes qui font les articles viennent la voir en disant « Dis donc, j'ai un article en ce moment sur tel sujet, tu ne peux pas me faire une carte ?» Et donc, elle croule sous la demande. Et la carte est un instrument privilégié pour aborder la géographie. Quand vous cartographiez quelque chose, que ce soit un relief, un climat, de l'hydrographie, de la végétation, de la population, de l'économie, de la production agricole, industrielle, énergétique, etc., à partir du moment où vous cartographiez un phénomène, éventuellement de manière dynamique, avec des flèches, des mouvements, vous avez une réalité qui est représentée. Et elle vous oblige à vous poser des questions. Tiens, pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a plus de ceci là et moins là ? Et donc, c'est la base de l'interrogation du géographe. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, faites des cartes. Vous les utiliserez peut-être pas toutes dans vos maîtrises, dans vos mémoires de maîtrise ou vos doctorats, mais faites le plus de cartes possible parce que ça vous servira. Et je regrette, par exemple, que les historiens, pour des raisons qui tiennent aux relations compliquées entre l'histoire et la géographie dans notre pays, enfin, à la fois d'amour, de proximité et en même temps de méfiance, aujourd'hui ne fassent plus beaucoup de cartes. Dans la plupart des livres d'histoire, il y a très peu de cartes. Et je le regrette beaucoup parce que plein de sujets étudiés par des historiens mériteraient une carte qui éclairerait leurs propos. Donc ce que vous évoquez comme autre métier autour de l'aménagement du territoire, du paysagisme, de gestion de l'environnement, avoir fait des études de géographie avant de se spécialiser est un excellent moyen. Et je dois dire que la plupart des étudiants en géographie qui vont jusqu'au bout, qui vont jusqu'au master au moins, trouvent des emplois, trouvent une insertion professionnelle après leurs études, ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines relevant des lettres et des sciences humaines, puisque la géographie relève des lettres et des sciences humaines dans la plupart des universités et non pas des sciences dures ou inhumaines. Mais la plupart trouvent des emplois, ce qui est beaucoup plus difficile en littérature, en philosophie, en latin ou en grec.
C'est donc une denrée rare des personnes formées à la géographie.
Pour moi, il n'y en a pas assez. Je regrette, par exemple, qu'on n'enseigne pas la géographie dans les grandes, la plupart des grandes écoles, à HEC, à l'ESSEC, à Polytechnique. On l'enseigne dans les écoles militaires, ce qui donnerait raison à Yves Lacoste, sert d'abord à faire la guerre, mais on l'enseigne plutôt bien dans les écoles militaires ou à l'école navale. On ne l'enseigne pas à l'ENA, bon, qui ne va bientôt plus exister. Un tout petit peu à Sciences Po, mais c'est une option minuscule. Et je le regrette beaucoup, parce que les futurs décideurs de notre société, que ce soit dans le domaine économique, politique, administratif, etc., devraient avoir une culture géographique. Vous voyez, on a des débats... pour lesquels la plupart des Français ne comprennent rien autour de la Corse, autour de la Nouvelle-Calédonie, autour de la Guadeloupe et de la Martinique. Si les gens avaient fait un peu de géographie, les journalistes et même les décideurs politiques, ils ne verraient pas les choses de la même façon. Parce qu'on peut imaginer d'être unis dans un pays qui s'appelle la France, avec de l'outre-mer, et en même temps accepter une certaine diversité. Vouloir mettre tout le monde au pas de la même façon... pour moi, est une absurdité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que chacun peut faire ce qu'il veut. Et il y a des règles communes qu'il faut accepter. Et ça, la géographie aide à envisager des solutions allant dans ce sens-là.
Alors, en vous écoutant, on comprend que c'est tout à fait passionnant d'étudier la géographie, qu'il y a en plus des débouchés professionnels. Mais force est de constater que ce n'est pas nécessairement la filière qui attire le plus les étudiants. Alors, comment expliquer ce désamour, d'une certaine façon, pour la géographie? C'est assez français, non?
Vous avez raison. La France a joué un grand rôle dans l'évolution de la science géographique, de la discipline, l'exploration du monde, l'écriture de la géographie. On a eu Jules Verne comme romancier, Élisée Reclus, Vidal de la Blache, des gens qui ont connu dans le monde entier, dont les livres ont été traduits. Et malgré ça... la géographie n'a pas une aussi bonne image que l'histoire, par exemple. Puisque en France, il y a un couple histoire et géographie, comme en Allemagne, qui date de l'époque de la Troisième République et de l'époque où on pensait que pour former le bon citoyen, le bon Français, il lui fallait des connaissances solides sur la géographie de son pays et sur l'histoire de son pays. Et les deux allaient ensemble, étaient profondément liés. Donc le professeur de collège et de lycée est d'histoire et géographie. Mais ça a duré, je dirais, de manière paisible et très positive jusque dans les années 50. Et puis après, les géographes ont fait une sorte de complexe par rapport à l'histoire. Il y a eu plus de meilleurs écrivains en histoire, peut-être parce que les historiens, traditionnellement, faisaient du latin avant de commencer leurs études, alors que les géographes avaient fait souvent des études qu'on appelait modernes, sans latin. Donc en tout cas, les historiens, dans l'ensemble, on peut dire, écrivent mieux que les géographes. Du coup, l'histoire a eu de grands auteurs et de grands écrivains depuis le 19e siècle, hein, entre Guizot, Michelet, etc. Mais au 20e siècle aussi, et c'est vrai que des gens comme Braudel, comme Leroy Ladurie, comme Jean Favier, etc., qui ont été à la fois de grands historiens et de grands écrivains palpitants, et qui avaient su aussi vulgariser leur discipline pour faire passer le message auprès du grand public. Et la géographie a manqué de cela. La géographie s'est au contraire protégée de cela, a trouvé que la vulgarisation n'avait aucun intérêt et s'est lancé plutôt dans un approfondissement théorique du savoir-faire et des savoirs, aboutissant à des modèles, aboutissant à, hélas, beaucoup de jargon. Et il faut reconnaître qu'il y a eu une période aussi où deux branches de la géographie dans les années 60 ont eu le vent en poupe. C'était d'une part la géomorphologie, c'est-à-dire l'étude des reliefs par rapport à la géologie, qui est tout à fait passionnante, mais qui a dominé la géographie dite physique. Et on avait séparé géographie physique et géographie humaine, hélas. Et puis de l'autre côté, la géographie économique, avec les millions de tonnes de charbon, de pétrole, donc qui était une sorte de version marxiste un peu de la géographie économique, où les consommateurs n'existaient pas. Et moi, j'ai été élevé à la Sorbonne dans cette façon de voir la géographie. Et on a séparé complètement géographie physique et géographie humaine. Du coup, on s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde parle d'environnement, de changement climatique, de biodiversité, etc., et que les géographes sont muets. Personne ne demande quoi que ce soit à un géographe, alors que nous sommes les mieux à même, normalement, de comprendre, avec une dimension historique, la relation de l'homme et de son environnement. Et quand on étudie cela, on avait fait ça avec des collègues il y a une dizaine d'années, avec un colloque qui s'appelait « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête », ça ne veut pas dire que tout va bien, mais l'humanité est pleine de ressources pour faire face à ces changements environnementaux, pour les maîtriser et trouver des solutions. Or, Malheureusement, les géographes sont muets, je le regrette beaucoup. Donc du coup, la géographie dans le secondaire est plutôt enseignée par des historiens qui ont fait très peu de géographie, donc ça les ennuie, donc ils l'enseignent mal. Et donc du coup, les élèves qui veulent s'orienter vers ces disciplines dans le supérieur choisissent plutôt l'histoire que la géographie. Et je le regrette.
Et justement, aujourd'hui, comment la géographie est-elle présentée dans les programmes scolaires, dans le secondaire ?
Alors, il y a eu tellement de changements de programmes. Il y a eu une période où cette vision théorique et modélisatrice a été dominante. Ça a ennuyé tout le monde, et en particulier les professeurs qui sont majoritairement agrégés d'histoire ou certifiés d'histoire-géographie, mais avec une forte appétence pour l'histoire et beaucoup moins pour la géographie. Donc du coup, ça a changé tellement de fois. Je crois qu'actuellement, on est dans une période un peu intermédiaire, apaisée, où on essaye d'orienter les élèves, enfin les programmes, vers des sujets de société actuelle et qui peuvent intéresser tout le monde et qui sont surtout des sujets qui peuvent répondre à des questions que se pose tout le monde sans dramatiser. Et en particulier sur l'environnement, mais sur la géopolitique aussi. Nous sommes les seuls à traiter de géopolitique dans le secondaire, et même dans le supérieur. À Sciences Po, il y a des politologues spécialisés, mais avec une vision globale, comme par exemple celle qui est développée dans une revue qui s'appelle Hérodote, qui est une vraie revue de géographie, où on aborde les questions géopolitiques de manière globale, avec les lieux où vivent les peuples, leur histoire, et leur réalité d'aujourd'hui, réalité politique, économique, sociale, culturelle. La géographie, comme toute discipline relevant des sciences humaines, doit et peut s'intéresser à tout, et est légitime pour s'intéresser à tout.
Alors, pour un jeune étudiant qui sort du lycée, est-ce qu'il va être surpris en arrivant à l'université par une façon différente d'enseigner ou d'aborder la géographie ? Est-ce que ça change ?
Bah oui, si j'ai le souvenir, alors c'est vrai que maintenant, à mon âge, les choses ont changé, mais j'avais choisi la géographie non pas par amour particulier de la discipline au lycée, mais parce que je voulais m'orienter. C'était un rêve de... À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'orientation, donc je n'avais pas trop d'idées précises en entrant à l'université, enfin, en passant mon baccalauréat. Et j'avais pensé à des métiers du tourisme, qui étaient très à la mode à l'époque. Et puis, comme je n'avais pas beaucoup voyagé dans mon enfance, ça faisait rêver de dire bah, j'irai en Chine, j'irai au Brésil, j'irai en Argentine. Et puis, donc, j'ai choisi la géographie.
Et vous avez vu du pays ?
Alors, j'ai vu du pays parce qu'on faisait des excursions, etc. Donc, et puis surtout, j'ai découvert une discipline dont beaucoup, pas tous, mais dont beaucoup d'aspects m'ont beaucoup plu, avec une façon de comprendre le monde qui me plaisait beaucoup, un intérêt pour les paysages. Et donc, toute la première partie de ma carrière universitaire, j'ai travaillé sur les paysages avec beaucoup de passion. Et puis après, comme à l'origine, je vais vous faire un aveu, je voulais être cuisinier. Donc, à partir du moment où je suis devenu professeur, j'ai dit, bon, maintenant, je m'intéresse à la gastronomie et au vin, mais du point de vue de la géographie, bien entendu.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces jeunes qui hésitent à se lancer dans ce genre de cursus ?
Il ne faut pas hésiter. Le conseil, c'est que allez-y. Ça va vous intéresser beaucoup et je peux vous assurer, si vous travaillez correctement, bien entendu, et que vous allez jusqu'au bout de vos études, que vous trouverez un emploi passionnant au début. Vous ne savez pas encore lequel, mais vous trouverez un emploi passionnant. Et tous les anciens, enfin ceux qui ont fait des études de géographie et qui sont dans des métiers de géographie appliqués, demeurent passionnés tout au long de leur vie. Et c'est un métier pour lequel on ne peut pas s'ennuyer d'être géographe appliqué parce que le monde change tout le temps. Dès qu'on voyage, dès qu'on franchit la porte de son domicile, on est plongé dans une géographie mouvante. Et donc, essayer de ne pas voyager comme une valise, ne pas se déplacer même à l'échelle d'une ville ou d'un quartier comme une valise, mais comprendre ce qui se passe, essayer de se poser des questions, ça rend la vie passionnante.
Et pour finir, est-ce que certains domaines, certains métiers vous semblent particulièrement prometteurs ? Peut-être qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent en géographie appliquée ?
Oh, il y en a plein. Je veux dire, quand j'étais étudiant, personne ne s'orientait vraiment vers la cartographie. Ça a commencé dans les années 80 avec un diplôme de l'Université Paris 1 et qui formait une quinzaine d'étudiants par an, de diplômés, de masters par an. Et tous ces gens ont tous trouvé du travail. Et maintenant, il y a des enseignements de cartographie partout. La cartographie a fait d'énormes progrès. Voilà un magnifique débouché. Mais dans le domaine de l'environnement, comme beaucoup d'organismes, beaucoup de collectivités territoriales se préoccupent de gérer intelligemment leur environnement, c'est un métier de géographe. Mais pour ça, il faut avoir approfondi un certain nombre de choses en tenant compte de la dimension humaine, pas uniquement des petites plantes, des sols, de l'eau et des animaux et des insectes. Il faut prendre la dimension humaine en compte, l'histoire, et parce qu'un milieu, c'est un mariage entre des données qui sont d'ordre géologique et abiotique et minéral, des données biologiques et des données humaines et culturelles. Et c'est tout ça qui fait l'intérêt. Gérer un milieu donné, que ce soit un marécage, une forêt, un espace agricole, un espace urbain, ça demande d'avoir des connaissances dans tous ces domaines-là.
Eh bien, un grand merci Jean-Robert Pitt. Je rappelle donc cette grande rencontre « À quoi sert la géographie ?» qui se déroulera du 7 au 9 avril 2022. C'est donc ouvert à tous. Ça se passe à Paris, à la fois à l'Institut de France et puis à la Société de,
le premier jour, oui,
de géographie. Voilà, pour les deux jours suivants. Et puis les actes du colloque sont déjà parus, ce qui est extrêmement rare, donc je le signale. Et c'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci beaucoup et venez nombreux à ce colloque.